Bien, ce soir nous allons aborder un sujet qui n'a rien de passionnant en lui-même, et qui est même assez aride et ardu, mais qu'il nous faut absolument aborder, notamment dans le contexte actuel, et l'importance de ce sujet m'est apparue encore bien plus fortement et nettement à la suite des festivités de la Roche-Bernard. Je veux parler de la théologie protestante. Il n'est évidemment pas question ici d'épuiser le sujet, mais d'en faire une approche rapide, bien sûr, mais en même temps aussi complète que possible, de façon, d'une part, à connaître ce qui apparaît comme une des démarches essentielles du protestantisme, et surtout de façon à pouvoir être capable d'en repérer les dangers et de ne pas se laisser prendre au piège qu'il peut y avoir dans ce qui apparaît très souvent, comme nous allons voir, comme une véritable séduction. La théologie protestante est au centre de la démarche de la réforme qui est née essentiellement d'un mouvement théologique. Les réformateurs étaient, disons si nous voulons employer un langage biblique, des docteurs, mais en même temps, ils étaient des docteurs qui étaient doublés d'une formation théologique et dont l'œuvre essentielle est une œuvre théologique. Il est faux d'affirmer, comme on l'entend dire ça et là, que la réforme était essentiellement une tentative de réforme morale, que la réforme était née des excès dans le domaine moral qu'il y avait dans l'Église catholique, et que ce sont ces excès qui ont provoqué la réforme. Quand nous lisons par exemple des textes comme la Confession d'Augsbourg, nous nous rendons compte que l'essentiel du contenu de cette confession est d'ordre doctrinal, et que les implications morales ne viennent qu'en dernier lieu et occupent une place très restreinte. La démarche de la réforme était une démarche, encore une fois, essentiellement doctrinale et théologique. La deuxième remarque à faire, c'est que le point de départ de cette théologie était la Bible. À cause du principe que nous avons rencontré lorsque nous avons parlé de la réforme, de sola scriptura, l'écriture seule. Les protestants n'étaient pas, bien entendu, les inventeurs de la théologie. À l'époque du Moyen-Âge, il y avait eu un travail théologique extrêmement important qui avait été accompli dans l'Église catholique, mais ce par rapport à quoi les réformateurs se sont inscrits en faux, c'est deux points essentiels de cette théologie catholique issue du Moyen-Âge. D'une part, contre la théologie scolastique, c'est-à-dire contre une théologie qui ne partait pas de la Bible, mais partait de toute une synthèse entre la Bible, les philosophies classiques, grecques en particulier, et finalement qui se bornait à une étude des théologiens et non plus une étude de la Bible. Et deuxième point sur lequel la théologie de la Réforme s'inscrivait en faux, c'était sur la notion d'une théologie naturelle, qui était une des bases, justement, de la théologie scolastique du Moyen-Âge, à partir de laquelle on essayait de construire des systèmes généraux. Il s'agissait d'englober la totalité du savoir dans un système dont l'élément théologique était en quelque sorte le sommet. La totalité du savoir humain se trouvait remplie dans cette démarche, dont la plus célèbre tentative se nommait précisément la Somme, et qui avait pour auteur le grand théologien du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin. La théologie naturelle partait, elle, de cette pensée que l'homme peut, avec sa raison, trouver Dieu. Alors, la démarche de la théologie naturelle se faisait de trois manières. Premièrement, il s'agissait de prouver l'existence de Dieu par des preuves rationnelles. À partir, ayant posé plutôt cette réalité de l'existence de Dieu, on en déduisait toujours, à partir de la méthode rationnelle et sans aucune référence biblique, l'essence, c'est-à-dire la nature de Dieu, et ensuite les attributs de Dieu, son amour, sa gloire, sa puissance, etc. Et enfin, troisièmement, il s'agissait de définir une spiritualité, et enfin, lié à cela aussi, l'immortalité de l'âme. Alors, la révélation qui venait ensuite ne venait, dans la théologie scolastique, que compléter, que parfaire ce que l'homme, par sa propre raison, avait déjà découvert. Mais le point de départ de la théologie, c'était la raison humaine. Alors, face à cette manière de faire, la réforme est partie d'un point tout à fait différent. Elle a rejeté cette théologie naturelle et a dit ceci: Dieu ne peut pas être reconnu par l'homme, mais il... Pardon, Dieu... Excusez-moi. Dieu ne peut pas être découvert par l'homme, mais il ne peut être que reconnu. Cela veut dire que l'homme lui-même ne peut pas connaître Dieu, à moins que Dieu ne se révèle à lui. Et la révélation de Dieu se fait au travers de sa parole dans l'Écriture sainte. Voilà ce qui était le point de départ de la théologie protestante à l'époque de la Réforme. Derrière cette affirmation, il y avait toute une vision de l'homme qui divergeait également de la vision catholique. La critique qu'adressaient les réformateurs aux théologiens scolastiques était celle-ci: dans la mesure où vous affirmez que l'homme peut découvrir Dieu par des voies dites naturelles, alors vous posez que les conséquences de la chute ne sont pas totales, que l'homme n'est pas tout entier atteint par le péché, puisque sa raison peut l'amener à connaître Dieu. La Bible, au contraire, nous dit que le péché atteint tout l'homme et que le péché fausse tout ce qui est humain, y compris la raison de l'homme. La raison de l'homme est touchée par le péché et, ce faisant, elle le conduit dans l'impossibilité de connaître Dieu. Et je crois que finalement c'est une position tout à fait exacte que cette position-là, que nous retrouvons dans le catholicisme lui-même, par exemple, un siècle ou deux plus tard avec Pascal. Vous connaissez la fameuse expression de Pascal dans les Pensées: Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non pas Dieu des philosophes et des savants. Je crois que c'est assez représentatif de ce qu'était la démarche de la théologie protestante à l'époque de la Réforme. Dieu n'est pas le Dieu des philosophes et des savants. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu qui se révèle. Alors, ceci conduit jusqu'à aujourd'hui les églises issues de la Réforme à avoir une très très grande méfiance vis-à-vis de tout ce qui est théologie naturelle. Et c'est un des grands débats aussi de ce temps, c'est un des grands points de divergence avec le catholicisme. Je pense par exemple à des débats extrêmement terre-à-terre, comme par exemple la fameuse question de la pilule, qui tourne autour de cela, dans ce sens que le catholicisme condamne l'usage de la pilule comme étant un moyen qui n'est pas naturel. Le catholicisme est très très soucieux de dégager une nature de l'homme à laquelle il conviendrait de se conformer. Et le protestantisme, lui, pose cette réalité que la nature humaine est entachée par le péché et par conséquent ne peut pas être un objet dans lequel on met sa confiance. Troisièmement, il y avait également, comme conséquence de cette prise de position, un refus de l'apologétique. Apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi. On comprend bien que poser le principe d'une théologie naturelle, c'est aussi poser immédiatement le principe d'une apologétique, c'est-à-dire que dans la mesure où l'homme naturel, irrégénéré, est capable de connaître Dieu, eh bien, il doit le faire. Et cette démarche est quasi obligatoire. Et s'il ne le fait pas, il faut le convaincre par des raisonnements rationnels, par des arguments pensés et sensés, qu'il a tort. Et à l'époque du Moyen-Âge, il y avait toutes sortes de traités qui étaient là pour montrer combien il était logique et combien il était normal de croire, en quelque sorte. La réforme, justement, pose au contraire le fait que la foi n'est pas naturelle dans le cœur de l'homme. Ce qui est naturel, au contraire, c'est l'incroyance. Et qu'il n'est donc pas question pour la théologie protestante de convaincre l'incroyant par des arguments rationnels, parce que, comme le dit fort bien Paul, l'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu, elles sont une folie pour lui. Et l'autre texte que nous connaissons bien, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et cette intuition des réformateurs était une intuition tout à fait logique. Et si l'incroyant doit se tourner vers Dieu, c'est parce que lui-même aura été l'objet d'une grâce spéciale de Dieu dans un acte de révélation, dans lequel Dieu se révélera à lui. Mais ceci n'est pas naturel. La démarche de foi n'est pas une démarche naturelle. Ce qui fait, et ce sont en particulier les baptistes qui en tireront les ultimes conséquences, qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la totalité de l'humanité se tourne vers Dieu, en Jésus-Christ, et qu'il n'est pas normal que la société soit chrétienne. C'est même le contraire qui est normal. Il est normal que la société soit incroyante et que les croyants forment en son sein une minorité. Alors on voit précisément comment les points de départ ici sont extrêmement importants. Donc un Dieu qui se révèle. Et ce Dieu qui se révèle ne se révèle pas n'importe comment. Il se révèle dans un livre qui est la Bible. Et toute démarche théologique dans la vision protestante part de la Bible. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle non pas dans quelque chose que l'on voit, mais dans une parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le mot parole pris ici au sens hébraïque du terme, c'est-à-dire ce que nous entendons par parole, nous, mais aussi acte. Et puis, troisièmement, disaient aussi les réformateurs, mystère. Qu'est-ce à dire? Prenons chacun de ces termes, si vous voulez. Parole, c'est-à-dire d'abord quelque chose de compréhensible, quelque chose de sensé. Non pas quelque chose qui est un langage ineffable, incompréhensible, mais au contraire, une parole qui a un sens et qui est parfaitement compréhensible. Deuxièmement, un acte. Cette parole reçue dans la foi ne retourne pas à Dieu sans effet. Elle produit des changements dans le cœur de l'homme. Et troisièmement, mystère, parce qu'il restera toujours, même au travers de cette parole claire, non ambiguë, compréhensible parfaitement, il restera une part de mystère. Dieu se révèle, mais au moment même où il se révèle, il se cache. Dieu ne peut pas être totalement connu dans cette économie présente. Et par conséquent, la théologie protestante pose qu'il reste une distance entre l'homme et son Dieu. Il y a ce sentiment que Dieu est infiniment plus grand que tout ce qu'on peut en dire, que Dieu est infiniment plus grand même que ce qu'il révèle de lui-même. Et que par conséquent, il y a une part de mystère dans la révélation qu'il nous faut accepter et qu'il nous faut respecter. Autre point très important, cette parole, si tant est qu'elle est claire, qu'elle est sensée, qu'elle est compréhensible, est folie pour l'homme naturel. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la raison de l'homme est entachée par le péché. Son intelligence est voilée et obscurcie. Et ceci fait qu'il va être, encore une fois, naturellement incrédule. Or, la parole de Dieu ne peut être reconnue comme telle que dans une démarche que la Bible elle-même appelle la foi et qui était centrale pour les réformateurs. Or, d'où vient la foi ? De la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est justement pour les réformateurs cette confiance que la parole de Dieu est vérité. Cette certitude qu'elle est vérité. Et celle-ci ne vient que lorsque l'on se met en contact, justement, avec cette parole de Dieu. Seule la Bible est capable de créer cette foi. Avec Paul, les réformateurs admettent que l'homme naturel peut arriver à une notion de Dieu dans la nature. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais à l'inverse de la théologie catholique, les réformateurs affirment que cette connaissance, ce langage de la création, est ambigu à cause de la chute et du péché qui habite le cœur de l'homme. Seule la parole de Dieu est claire. Et seule la parole de Dieu peut créer la foi dans le cœur de l'homme. Cette parole, elle se trouve recueillie dans un livre qu'on appelle la Bible. Pourquoi la Bible ? Pourquoi ce livre et non pas un autre ? Eh bien parce que chaque fois que des hommes ont cherché Dieu au travers de la Bible, ils ont trouvé Dieu. Voilà pourquoi la Réforme affirme que la Bible est la parole de Dieu. À toutes les générations et à toutes les époques, chaque fois que des hommes ont eu soif de Dieu et se sont mis à l'écoute de la parole de Dieu au travers de la Bible, ils ont rencontré Dieu dans une expérience réelle et dans une expérience vivante. Autre question qui a été posée par les réformateurs, notamment par Calvin. Comment se fait-il que l'Église primitive ait limité la parole de Dieu à ce livre-là ? C'est tout le problème de l'écriture et de la tradition, qui était évidemment un des sujets controversés avec le catholicisme. Et au travers de ce problème se pose la question de ce qu'on appelle le canon de l'écriture, c'est-à-dire comment a-t-on posé comme fait que seuls les 66 livres de la Bible étaient paroles de Dieu et les autres ne l'étaient pas ? Eh bien, disent les réformateurs, en déclarant le canon clos, l'Église, loin de s'ériger en puissance, constitue en face d'elle une autorité qui la juge. Et ce faisant, elle fait un acte d'humilité. L'Église n'est pas propriétaire de la révélation. Elle n'en est pas maîtresse, comme c'est le cas dans le catholicisme. Et je crois que nous touchons là à un des points essentiels qui différencie les églises issues de la Réforme avec l'Église catholique. L'Église n'est pas maîtresse de la révélation. Mais il existe, extérieure à elle, une réalité à laquelle elle ne peut toucher et qui la juge constamment, face à laquelle elle est sans cesse appelée à se remettre en question. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, l'Église réformée est toujours à réformer à la lumière de cette parole immuable. Évidemment, ici, nous n'allons pas entrer dans les problèmes, à savoir la constitution du canon. Je crois que finalement, la première remarque que nous faisions est claire. Les hommes qui ont posé ces textes comme inspirés avaient reconnu en eux la parole de Dieu, tout simplement parce qu'au travers d'eux et au travers d'eux seuls, ils avaient reconnu, ils avaient rencontré Dieu. Les autres livres ne les avaient pas conduits à une rencontre de Dieu, à une expérience de Dieu aussi réelle et aussi totale que celle qu'il y avait dans ces livres-là. Une autre raison aussi, c'est que l'Église du IIe siècle, qui avait reconnu le canon de l'Écriture sainte, avait reconnu par là que elle n'était plus en présence des témoins directs du Christ. Et ce faisant aussi, elle posait par là un acte d'humilité. Et c'est pourquoi le protestantisme pose comme normatif, et normatif uniquement, l'époque apostolique, l'âge apostolique, c'est-à-dire l'âge où ont vécu les témoins directs du Christ, en gros, si vous voulez, le premier siècle. Et notamment lorsque il y aura dans la théologie protestante une histoire d'Église, l'époque privilégiée sera l'âge apostolique. Et l'époque de référence sera uniquement l'âge apostolique. C'est uniquement cette période qui, dans l'histoire de l'Église, fait autorité. Ce qui ne veut pas dire que la théologie protestante va négliger les autres époques de l'histoire de l'Église, mais les autres époques de l'histoire de l'Église ne seront plus normatives pour la vie de l'Église d'aujourd'hui. Seul l'âge apostolique a cette autorité. Luther, lorsqu'il a été amené à s'expliquer devant la diète, a affirmé « Je ne crois ni au concile, ni au pape, ni aux dogmes tels qu'ils ont été définis dans l'histoire. » Seul l'âge apostolique est normatif. Et ceci entraîne une autre conséquence. C'est que l'histoire sainte, entre guillemets, qui était une notion fort prisée dans le catholicisme de l'époque du XVIe siècle, s'arrête à la fin du Ier siècle. Il n'y a plus d'histoire sainte qui continue après cette période-là. Ce qui ne veut pas dire que Dieu n'est plus le maître de l'histoire. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne conduit plus l'histoire. Mais à la fin de l'âge apostolique, l'histoire du salut est arrivée à son apogée. Et s'ouvre alors un temps où il n'y a plus de point de repère direct pour reconnaître la geste de Dieu agissant dans l'histoire. Cette geste de Dieu, ces hauts faits de Dieu, ces actes de Dieu ne sont plus visibles, ils ne sont plus discernables pour l'homme. Ils ne le seront qu'au dernier jour. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que Dieu n'agit pas. Mais précisément, le rôle de l'Église est d'être attentif pour discerner ces signes de l'action divine dans l'histoire. Mais ce faisant, l'Église doit faire cette démarche en toute humilité, c'est-à-dire en étant consciente qu'elle peut se tromper, qu'elle est faillible. Qu'elle-même ne fait pas cette histoire-là. Elle la reconnaît et elle en signale, si j'ose dire, la réalité aux hommes incroyants qui l'entourent. Et ceci, encore une fois, s'oppose à la démarche catholique pour laquelle l'œuvre du salut se poursuit dans l'histoire de l'Église en particulier, au travers de la tradition, au travers des saints, et ce faisant, l'Église, finalement, est infaillible. Le protestantisme pose la doctrine d'une Église limitée et d'une Église faillible parce qu'humaine. L'Église peut se tromper. Là où l'Église catholique dit « l'Église ne peut pas se tromper ». Les hommes qui la composent peuvent se tromper, mais l'Église ne peut pas se tromper. Les réformateurs disent « faux ». L'Église peut se tromper, et précisément, le catholicisme est là pour nous montrer que l'Église peut se tromper et s'est trompée. Car si nous n'avions pas la conviction profonde que l'Église ne s'était pas trompée, nous n'aurions pas eu besoin de sortir de cette Église-là. Et la rupture avec Rome se fait à partir du moment où les réformateurs ont cette conviction que l'Église peut se tromper et qu'elle s'est trompée. Maintenant, poser cette réalité, ça veut dire aussi que les églises issues de la Réforme peuvent, elles aussi, se tromper. Mais il y a aussi cette promesse de Dieu, n'est-ce pas, que cette Église subsistera jusqu'à la fin, mais elle subsiste justement par rapport à cette norme, à la lumière de laquelle elle a toujours à se réévaluer, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas se tromper. Mais l'usage qu'on en fait peut être faux. Et ceci entraîne un certain nombre de conséquences. C'est qu'encore une fois, on est amené à rejeter tout ce qui est tradition. Tout ce qui est encore dans l'Église catholique, les fondements de la foi. Pour le catholicisme, il n'est pas nécessaire et suffisant pour qu'un dogme soit accepté comme tel, qu'il ait des bases bibliques uniquement. Mais il y a trois données qui peuvent permettre de définir un dogme selon la théologie catholique. La première, c'est l'universalité de la croyance. Si par exemple une doctrine s'est imposée à l'ensemble des croyants, je pense par exemple à un dogme comme les dogmes mariaux sur Marie Corédemptrice, le dernier dogme qui a été promulgué donc en 1950 par le pape Pie XII, n'est-ce pas ? Eh bien, le pape Pie XII a promulgué le dogme de Marie Corédemptrice à partir de ces trois critères. Le premier, l'universalité. C'est-à-dire que l'ensemble des évêques étaient favorables à ce dogme. Deuxièmement, l'antiquité. Et le pape avait été effectivement plongé dans les apocryphes des premiers siècles pour trouver des racines le plus antiques possible à ce dogme-là. Et troisièmement, le consensus. Consensus pour qu'enfin ce dogme-là soit promulgué. La Réforme rejette cela. Maintenant, la Réforme ne rejette pas les conclusions de tous les conciles. Elle admet, elle adopte en particulier les conclusions des premiers conciles œcuméniques, tous ceux qui ont eu lieu avant la rupture avec Byzance notamment. Pourquoi ? Non pas parce que ce sont des conciles, mais parce que les conclusions de ces conciles apparaissent comme étant bibliques. Alors, quelles sont ces conclusions-là ? C'est d'abord les dogmes trinitaires, avec les conciles de Nicée et Constantinople. Et puis les conclusions des synodes d'Éphèse et de Chalcédoine, 431-451 après Jésus-Christ, qui définissaient en quelque sorte théologiquement la doctrine de l'incarnation. Les deux natures de Jésus, divine et humaine, unies et pourtant pas confondues dans l'homme Jésus, en personne de Jésus. Bien. Même si ces dogmes étaient définis en termes de philosophie grecque, jusqu'à ce jour, la réforme se retrouve dans ces formulations qui, pour imparfaites qu'elles soient, n'en sont pas moins des garde-fous, si j'ose dire, pour définir aussi exactement et aussi rigoureusement qu'il soit possible un certain nombre de réalités bibliques qui ne sont pas explicites dans la Bible, mais qui sont implicites et qui se trouvent ainsi, par ces définitions conciliaires, explicitées. Alors, nous trouvons un certain nombre de caractéristiques à cette théologie biblique, qui est le point de départ de toute démarche théologique protestante. D'abord, il s'agit d'une théologie qu'on appelle d'un mot barbare, et là, hélas, la théologie emploie une véritable langue de bois, mais il y a un certain nombre de termes avec lesquels il faut se familiariser, parce qu'on les rencontre quand on discute avec ces gens-là. D'abord, c'est une théologie kérigmatique, du mot kérigma en grec qui signifie proclamation. C'est-à-dire que la Bible, la parole de Dieu, est une parole vivante, une parole dans laquelle on rencontre Dieu dans la mesure où seulement, et dans la mesure seulement où elle est proclamée. Elle est dite, elle est partagée, elle est prêchée. Et c'est pourquoi les églises de la Réforme vont insister sur la prédication de la parole. Au centre du culte des églises issues de la Réforme, il y a la prédication de la parole, la proclamation de la parole. Et cette parole est tellement centrale que, à l'inverse de ce qui se passe dans le catholicisme, elle passe avant les sacrements. Et notamment, pour mieux marquer la centralité de la parole, la plupart des églises issues de la Réforme, du moins à l'époque du XVIe siècle, ne prenaient les sacrements, notamment le sacrement de la Sainte Cène, qu'occasionnellement. Ce n'était pas systématiquement tous les dimanches que l'on prenait la communion, c'est d'ailleurs le cas dans les églises réformées jusqu'à l'heure actuelle, n'est-ce pas, pour mieux souligner la centralité de la parole. C'était peut-être un peu excessif, et c'est pourquoi, par exemple, au niveau des églises évangéliques, on est revenu à quelque chose de plus équilibré, mais le souci était celui-là, c'était d'affirmer la primauté absolue de la parole. Deuxième réalité, c'est que la théologie biblique est également christocentrique. Dans ce sens que toutes les Écritures doivent être considérées dans la perspective de Christ. Et là, il y aurait un certain nombre de textes à évoquer. Lorsque Jésus disait aux pharisiens, « Vous sondez les Écritures, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » L'Ancien Testament en particulier est lu de manière christocentrique. Il s'agit de montrer comment l'Ancien Testament préparait la venue de Christ, la typifiait et était comme une sorte de jalon, un ensemble de jalons qui devait mener jusqu'à l'apparition de Christ. Maintenant, nous entrons ici, ça c'est jusque maintenant, c'est tout à fait idéal, c'est vraiment biblique. Nous sommes ici sur un terrain extrêmement solide sur lequel, en tant que chrétiens évangéliques, nous nous situons parfaitement. Mais à partir de ce niveau-là, se crée un malentendu. Un malentendu entre les différentes composantes actuelles des églises issues de la Réforme. Toutes les églises issues de la Réforme sont d'accord pour dire que la base de leur foi est la Bible, à partir de toute cette démarche que nous venons d'évoquer. Et que la parole de Dieu retentit uniquement au travers de la Bible. Mais là, maintenant, naît le malentendu. Il y a en fait, à ce niveau-là, nous aurons l'occasion d'y revenir, trois positions qui sont tout à fait divergentes et qui créent les malaises et les problèmes actuels. La première affirmation, qui est celle que nous trouvons dans la Bible et qui est celle de la Bible elle-même, qui a été celle des réformateurs et qui est la nôtre aujourd'hui, c'est celle-ci. La Bible tout entière est la parole de Dieu. Et il nous faut rappeler le fameux texte de Paul à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, corriger, etc., pour que l'homme soit utile à toute bonne œuvre, etc. Vous connaissez le texte. Cette doctrine porte un nom en théologie qu'on appelle la doctrine de la théopneustie. Ça veut dire Théo, c'est Dieu, pneuma, c'est l'Esprit Saint, soufflé de Dieu. Et c'est une manière de rendre compte justement de ce fameux verset, toute écriture est inspirée par Dieu, on pourrait traduire et soufflé de Dieu. C'est ça ? Théopneustie. Pneustie, oui. En un seul mot. Et cette doctrine qui était celle des réformateurs, il n'y a aucun doute, quand on lit Calvin, quand on lit Luther, etc., c'est clair que c'était ce qu'ils croyaient. Mais à partir du XVIIIe siècle, un certain nombre de réalités nouvelles se sont fait jour dans la société non religieuse. Vous savez, le XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières. On pourrait plutôt dire le siècle des obscurités. Mais ces gens-là avaient l'impression de sortir de l'obscurantisme du Moyen-Âge. Et à quoi on accordait la primauté, c'était à la raison. C'était l'âge de la raison. Ce n'était pas tout à fait nouveau, parce que dans le fond, nous avons vu il y a un instant que la théologie scolastique était déjà une théologie de la raison, dans bien des domaines. Mais au nom de la raison, on a été amené à nier au XVIIIe siècle toute la dimension du surnaturel. Tout ce qui n'était pas explicable rationnellement n'était pas vrai. Alors, ça voulait dire que, par exemple, tous les miracles dont la Bible est jalonnée, qui ne sont pas rationnels, étaient donc faux. Ça voulait dire également qu'un certain nombre d'affirmations centrales de la Bible qui ne sont pas rationnelles, sont également fausses. Jésus-Christ né d'une vierge, c'est pas rationnel, ça. Donc Jésus-Christ n'est pas né d'une vierge. Jésus-Christ était le fils de Joseph. La résurrection des morts, c'est pas rationnel. Donc Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Alors, ça, c'est ce qu'ont dit un certain nombre de gens qui étaient des adversaires de la foi chrétienne au XVIIIe siècle. Et ce qui est paradoxal, c'est que les chrétiens eux-mêmes, ou un certain nombre de chrétiens, et en particulier à l'intérieur du protestantisme, au lieu de lutter contre ce qui était une mise en question de leur foi, au nom de la raison, ont adopté cette vision des choses. Et on dit, nous sommes d'accord avec vous, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Nous sommes d'accord avec vous, Jésus-Christ n'est pas né d'une vierge. Donc l'incarnation n'est pas une réalité. Et alors, c'est évidemment remettre en question les bases mêmes de la foi, les bases mêmes de la réforme, le sola scriptura. Et nous voyons ici la subtilité, la perversité, disons plutôt, de l'esprit humain qui essaie toujours de marier l'eau avec le feu, et qui a dit, eh bien, dans le fond, nous croyons toujours que la Bible est le fondement de notre foi. Mais nous croyons que toute écriture n'est pas inspirée par Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est dans la Bible, mais que toute la Bible n'est pas parole de Dieu. Vous voyez la nuance, la différence. Et là où les chrétiens de tous les temps avaient affirmé la Bible et la parole de Dieu, ce qu'on a appelé à ce moment-là les libéraux, ont affirmé la parole de Dieu et dans la Bible, plutôt la Bible contient la parole de Dieu. Alors, soyons très attentifs quand nous discutons avec des réformés. Parce que là, il peut y avoir une ambiguïté. Si un réformé vous dit « Oui, je crois que la Bible contient la parole de Dieu », alors soyez sûr qu'il n'a pas la même foi que vous. Alors qu'a priori, on pourrait s'y tromper. Il va dire « Oui, la Bible, c'est le fondement de ma foi, etc. » Alors on dit « Mais très bien, on est sur la même longueur d'onde. » Non, pas du tout. On parle avec les mêmes mots de choses absolument différentes. La Bible contient la parole de Dieu. Ça veut dire, moi, avec ma raison, avec les postulats de la science moderne, des sciences bibliques, psychologiques, par exemple, au XIXe siècle, à l'époque de Freud, etc., c'était au nom de la psychologie. Par exemple, telle situation est psychologiquement invraisemblable, donc je déclare qu'elle est fausse. Tel et tel événement de l'Évangile, psychologiquement m'apparaît invraisemblable, je le rejette, au nom de ma raison. Donc, je choisis dans la Bible, au nom de ma raison m'amène à dire, tel passage est parole de Dieu, et telle parole ne l'est pas. Et qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui est parole de Dieu? Le message moral, disaient les libéraux du XIXe siècle. Et la Bible est réduite, ou la religion est réduite à une morale, qui finalement est la morale générale qui était celle du XIXe siècle. Ça. On s'est très vite rendu compte que cette position était tout à fait intenable, parce que le critère de la raison est un critère très très subjectif en fin de compte, et ces messieurs les libéraux n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce qui convenait d'accepter ou non. Il y avait d'ailleurs des choses absolument aberrantes. On aura l'occasion d'en voir quelques-unes quand on reviendra sur le libéralisme. Par exemple, le miracle de la multiplication des pains. Jésus n'a pas multiplié les pains, bien entendu, parce qu'on n'a jamais vu personne multiplier des pains. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais chacun de ceux qui étaient allés écouter Jésus dans le désert avait pris son casse-croûte avec lui en cas où, n'est-ce pas? Mais tous n'avaient pas pensé le faire. Alors quand ils se sont trouvés qu'il n'y avait plus rien à manger, eh bien, personne n'osait sortir son casse-croûte parce qu'il n'avait pas envie de partager avec le voisin. Et que, voilà quoi. Alors, Jésus a trouvé un garçon qui, lui, au contraire, était prêt à partager ses 5 pains et ses 2 poissons. Alors, il a montré ce garçon en exemple. Et puis, tout le monde, touché par ce geste magnifique, a sorti son casse-croûte et puis a partagé avec celui qui n'en avait pas. Voilà le genre d'aberration que le libéralisme... Comment ? Du 19e siècle, avec, comment est-ce que tu dis ?
Quand Pierre dit, il n'y a rien à manger.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou alors quand Jésus marchait sur la mer, alors il y en avait qui avaient trouvé, Renan par exemple, avait trouvé qu'il y avait parfois dans des rochers qui affleuraient dans le lac de Galilée, comme ça, et que dans une certaine perspective, n'est-ce pas, si Jésus marchait sur ces rochers, sautait d'un rocher à l'autre, on avait l'impression qu'il marchait sur la mer. Vous voyez, c'était ça volait haut, quoi. Alors, on s'est quand même rendu compte que c'était un petit peu minable comme explication. Et le libéralisme, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avait du plomb dans l'aile, disons. Mais on ne pouvait plus revenir, dans la plupart des facultés de théologie protestante, à la théopneustie. Parce que le poison avait quand même été jeté. Et c'est alors qu'est apparu un théologien qui a fait école, qui est un grand nom de la théologie protestante moderne, qui se nomme Karl Barth. B-A-R-T-H. Et ce Karl Barth est le maître à penser de pratiquement tous les réformés modernes, tous les pasteurs réformés modernes. Et à ces deux formules que nous avons évoquées, la Bible et la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Karl Barth a substitué une troisième formule. La Bible devient la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Bon, effectivement, dans la Bible, il y a des mythes. Il y a des invraisemblances, il y a des choses qui sont fausses. Les miracles, bon, c'est vrai, ça n'existe pas. Ça, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi, disait Karl Barth, que Jésus ait vraiment marché sur les eaux ou qu'il n'y ait pas marché? Le Saint-Esprit a pris ce mythe, cette rêverie d'esprits orientaux un peu farfelus, pour me parler à moi. Et si le Saint-Esprit me parle par cette chose fausse, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, du moment que le Saint-Esprit me parle. Si soudain, en lisant ce texte de la multiplication des pains, je suis touché, si soudain ce texte me parle, s'il a un sens pour moi, eh bien, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, je m'en fiche, il devient pour moi, par l'action du Saint-Esprit, parole de Dieu. Alors évidemment, c'est quelque chose qui nous fait bondir. Par rapport au libéralisme du 19e, c'était déjà un progrès. Et ça a permis à nombre de pasteurs réformés de retrouver une certaine foi. Parce que comment le Dieu juste, comment le Dieu vrai, peut-il me parler à partir de quelque chose de faux? Et puis deuxièmement, nous savons très bien, nous charismatiques, que le miracle est possible. Nous savons très bien que tes malades sont effectivement guéris au nom de Jésus. Nous savons très bien que, eh bien, les miracles de révélation, ça existe, etc., etc., etc. Mais pour des gens qui n'ont pas cette foi, bien entendu, le baptisme est un pis-aller. Et encore une fois, c'est la position de bien des théologiens protestants aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut être extrêmement prudent quand on parle avec cela, parce qu'encore une fois, les mêmes mots n'ont pas les mêmes choses. Vous allez parfois avoir des gens qui vont vous faire des prédications extrêmement évangéliques. Seulement, ils ne croient pas un mot de ce qu'ils disent. Compte pour eux uniquement la leçon qu'ils en tirent. Mais ce qu'ils ont dit, ils n'en croient pas un mot. Alors faisons très attention quand nous discutons ou quand nous parlons avec eux. Nous ne parlons pas des mêmes choses. Et c'est là que je dis qu'il y a une ambiguïté fondamentale aujourd'hui sur ce qu'est finalement la parole de Dieu. Alors, oui, ça on a vu. Oui, se pose maintenant un autre problème, très rapidement nous allons l'aborder parce que, j'ai encore une autre chose, je le retourne, c'est le problème de l'autorité. Qui va exercer l'autorité dans la vie du chrétien? Les réformateurs avaient répondu d'une manière très claire, la Bible. Alors, la Bible, lue par chaque croyant, mais le croyant aussi guidé dans l'Église, par les ministères. Et c'est la raison pour laquelle les premiers réformateurs avaient élaboré et rédigé des confessions de foi. Les confessions de foi les plus anciennes dans la Réforme sont doubles. D'une part, la confession d'Augsbourg, c'est-à-dire la constitution, quelque sorte, de foi des églises luthériennes. Quelque chose qui ne va pas, Gilles ?
Non,
bon. Qui sert encore aujourd'hui de confession de foi à la plupart des églises luthériennes. Du côté réformé, on trouve la confession de foi dite de La Rochelle, ainsi nommée parce qu'elle n'a pas été écrite à La Rochelle. Je ne sais pas trop pourquoi on l'appelle d'ailleurs de La Rochelle.
Et qu'en France, on appelle comme ça, partout dans le monde, on appelle Gallica. Confession Gallica.
Ouais. Seulement, ces confessions de foi partaient encore une fois du postulat que nous avons évoqué, la Bible et la parole de Dieu. À partir du moment où la Bible n'est plus la parole de Dieu, mais contient la parole de Dieu ou devient la parole de Dieu, il n'y a plus de dogme possible. Il n'y a plus donc de confession de foi possible. Et aujourd'hui, les églises historiques protestantes se trouvent dans cette situation paradoxale où elles n'ont plus de confession de foi. Et elles se trouvent dans l'impossibilité de rédiger une confession de foi. Autrement dit, les églises aujourd'hui protestantes historiques n'ont plus de doctrine. ou alors chacun peut élaborer sa propre doctrine. Et nous trouvons dans une pagaille indescriptible aujourd'hui à ce niveau-là. Et c'est un des grands problèmes aussi en ce qui concerne le dialogue œcuménique, et un des grands reproches que les catholiques font aux églises de la Réforme, c'était une des interpellations de l'évêque Le Bourgeois à une récente Assemblée Générale du Protestantisme. Quelle est votre doctrine? Nous, on venait discuter avec vous, mais sur quelle base? Que croyez-vous? Et la plupart de ces églises de répondre, nous ne savons pas ce que nous croyons. Voilà la confusion à laquelle a conduit l'abandon, justement, de la Bible comme parole de Dieu. Deuxième conséquence, au niveau de l'autorité, qui n'est pas une des choses les plus positives non plus, c'est la notion du sacerdoce universel. Bon, c'était une des conséquences du soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, le refus d'un clergé, le refus d'une prêtrise, le refus d'une classe qui aurait des pouvoirs que l'ensemble des laïcs n'aurait pas. Mais ce qui fait que on aboutit finalement à une négation des ministères. Ce qui a constitué à l'époque de la Réforme le ministère, c'était la formation théologique, justement. Le pasteur était celui qui savait, alors que souvent la masse du peuple, à cette époque en particulier, ne savait pas, était ignorante, même au point de vue de la lecture et de l'écriture souvent, même s'il y avait un effort très important qui était entrepris à ce niveau-là. À partir du moment où, à notre époque, il y a démocratisation du savoir, automatiquement, il y a aussi disparition des ministères. Et la deuxième plaie du protestantisme aujourd'hui, c'est la démocratie. La démocratie qui a remplacé la vision de Dieu, la vision céleste, d'abord parce qu'il n'y a plus de Bible comme référence au point de vue norme d'autorité, et deuxièmement parce qu'il n'y a plus personne pour rappeler justement ce que la Bible dit. Alors, on arrive à une situation extrêmement paradoxale où la théologie n'est plus qu'un ensemble de spéculations, de constructions systématiques d'ordre uniquement intellectuel. Et nous arrivons à la troisième conséquence de cet abandon de la parole de Dieu, c'est l'intellectualisme. Alors, la théologie est devenue un véritable jeu intellectuel. On jongle avec des idées, comme le disait quelqu'un, on joue avec les idées comme on joue au bridge, n'est-ce pas ? On jongle avec des idées, on se gargarise de mots extraordinaires. Je parlais de kérigme tout à l'heure, de toutes sortes de mots ronflants, etc., qui souvent masquent le creux des idées. Hein, ça c'est Locke. Fais-le rentrer pour pas qu'il nous embête, mais dis-lui de se taire. On masque ce faisant vraiment le creux des idées. Et ne reste plus qu'un intellectualisme mort, un intellectualisme sec, et une classe, n'est-ce pas, d'initiés que sont ces théologiens qui ont accès précisément à cette langue de bois alors que le peuple n'a pas accès. On se retrouve un petit peu dans la situation où étaient les médecins de Molière, vous savez, les médecins de Molière qui se référaient à Aristote, à un jargon en latin, etc., et qui finissaient par conclure, et voilà pourquoi votre fille est muette. Le brave homme n'avait rien compris, racontait n'importe quoi, mais il était ébloui par ce qu'il avait entendu, des mots au long de 3 kilomètres. Alors c'était ça qui l'avait impressionné. Eh bien, l'autorité de la plupart des théologiens est uniquement celle-là. Alors je crois qu'il faut faire très attention quand on est en contact avec des réformés, c'est que précisément ce sont des gens qui savent jongler avec les mots et qui cherchent à éblouir et à impressionner leur monde par des mots. Et on peut se laisser prendre à cette dialectique en disant, bah c'est formidable. Dans le fond, mon père, je me souviens, a fait une petite... il avait écrit à son ancien pasteur, au moment où ce dernier était parti, une petite lettre dans laquelle il rappelait comment s'était fait le choix de ce pasteur quand il était arrivé. Il s'était présenté devant le conseil presbytéral après avoir posé sa candidature pour cette église-là. Et bon, il avait fait un petit discours pour exposer un petit peu ce qu'il croyait, etc. Et alors ensuite, on l'avait prié de sortir, puis les conseillers presbytéraux avaient discuté. Alors c'était tous en général des gens qui étaient de la campagne, etc. Bon. Et alors finalement, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Tout d'un coup, il y en a un qui dit, ben, il parle bien. Ah oui, pour ça, il parle bien. Ah ben, il parle bien, dit le troisième. Et puis tout le monde dit, ah ben, il parle bien. Alors il a été accepté parce qu'il parle bien. Alors, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Oui, il parle bien, ça c'est vrai. Seulement, il faut dégonfler la baudruche. Il faut voir ce qui se cache derrière les mots. Et souvent, quand on est en contact avec ces gens-là, il faut apprendre leur vocabulaire, un minimum de vocabulaire. Et puis, ne pas se laisser impressionner quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, etc. Pas hésiter à jouer les paysans du Danube s'il le faut. Et dégonfler souvent les prétentions de ces gens-là. Souvent, il suffit d'une ou deux réflexions de bon sens pour complètement les cisailler. Ça, ils se retrouvent tout bêtes, quoi, avec tout leur grand système qui vient de s'effondrer comme un château de cartes. Mais surtout ne pas se laisser impressionner par le langage. Ne pas se laisser impressionner par l'ambiguïté du langage et faire très attention à cette ambiguïté du langage. Et je crois qu'on en a eu un exemple typique à La Roche dimanche dernier, c'est pas ? Avec des grandes idées tout à fait belles, etc., mais qui masquaient quelque chose de redoutable, qui masquaient le manque de foi, la perte de foi dans la parole de Dieu, qui masquaient le fait qu'on ne croyait plus aux doctrines essentielles de la parole de Dieu, etc. Et là, il faut faire attention parce que petit à petit, on peut se laisser prendre dans cet engrenage. Et ceux qui fréquentent de près ces milieux-là savent qu'au bout d'un temps, eh bien, il y a une osmose qui se fait, il y a une influence qui se fait, qu'on le veuille ou non. Et l'influence ne fait pas, se bat dans le sens que l'on pense, c'est-à-dire ce n'est pas la partie évangélique qui influence la partie réformée, c'est l'inverse. Quelqu'un avait eu cette réflexion désabusée, on commence par être fondamentaliste, c'est-à-dire théopneuste, croire à l'inspiration de la parole de Dieu, puis on finit libéral. Et ça se vérifie actuellement dans les milieux évangéliques. C'est un danger terrible, notamment dans les facultés de Vaud, d'Aix ou des milieux semblables. Il y a un glissement rapide, notamment sous l'influence d'un homme comme Henri Blocher, qu'on a eu l'occasion d'épingler dans l'expérience il y a quelques années, et qui est en train de suivre cette évolution-là et d'en entraîner d'autres. Parce qu'il y a une séduction d'intellectualisme, il y a une séduction de la raison. Et n'oublions jamais que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. L'homme naturel qui reste au-dedans de chacun d'entre nous, à partir du moment où il n'y a plus la révélation de Dieu. Alors je crois que là, il faut être conscient que nous avons affaire à une réalité absolument redoutable et avec laquelle il nous faut être extrêmement prudents. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'avais deux petites choses. Je passe rapidement sur mes deux derniers points. La théologie considérée comme une science. Et une science qui se fait, en fait, à partir de la synthèse avec les autres sciences, une pseudo-science de l'époque. Notamment, il y a à toutes les époques une grille de lecture qui est celle de l'idéologie dominante, à partir de laquelle on interprète la Bible dans le protestantisme. J'ai évoqué le XVIIIe siècle, c'était le rationalisme, alors on voyait tout au travers du rationalisme. Ensuite, il y a eu Freud et on a fait des lectures psychologiques de la Bible. Et puis aujourd'hui, c'est le marxisme qui est l'idéologie dominante. Et c'est pourquoi nous avons des lectures marxistes de l'Évangile. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir, mais en tout cas, on peut être sûr qu'il y aura quelque chose de nouveau. Il y a eu ensuite le structuralisme. Enfin bref, il y a des lectures plurielles. On arrive maintenant à ce stade des lectures plurielles de l'Évangile. C'est-à-dire que chacun lit l'Évangile avec ses lunettes. Il met les lunettes marxistes, ou il met les lunettes structuralistes, ou il met les lunettes historico-critiques, ou il met... Enfin, chacun choisit la grille de lecture qui est la sienne. Et puis tout ce monde-là, finalement tout se vaut. Toi, tu conclus ça, ben c'est bien. Toi, tu conclus ça, ben c'est bien aussi. Finalement tout se vaut. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien. Et on arrive à une destruction de la foi. et destruction des églises par conséquent. Et finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement redoutable. Alors voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire très rapidement pour une petite introduction à la théologie protestante.